Bien. Alors, aujourd'hui, le séminaire s'évade du lointain Moyen Âge. D'ailleurs, c'est ce qu'il fera aussi pour la dernière séance avec Odile Bombarde. Et nous accueillons Madame Claudina Roche, que je remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté de venir parler dans les ténèbres médiévales. Elle est directrice de recherche au CNRS, au centre Edgar Morin. Et c'est une sociologue à la frontière de l'anthropologie et de la psychologie comportementale. Je ne sais pas si elle accepterait l'expression, mais enfin, vu de moi, non, probablement pas. Je marche à pointe des pieds. Et s'occupe beaucoup qui étudie les perceptions, les sensations, les affects en sociologue. J'ai écrit c'était de vos premiers livres, une très belle histoire du visage, exprimer et taire ses émotions, qui est un classique, qui a été réédité de toutes les façons. Et Claudina Roche a dirigé avec Yves Deslois un ouvrage collectif sur le sentiment d'humiliation qui a paru en 2007 et qui je suis toujours à patauger dans mes vieux textes et qui est peu d'idées générales et spéculatives, a été vraiment d'une grande aide, une sorte de révélation. Et puis j'ai retrouvé dans sa propre contribution beaucoup de choses qui étaient pour moi très, très suggestives, très éclairantes et en même temps très, très proches. Donc c'est pour nous extrêmement précieux de pouvoir l'entendre aujourd'hui sur un sujet dans une perspective historique, des humiliations ritualisées sous l'Ancien Régime aux humiliations diffuses dans l'individualisme contemporain. Ces humiliations diffuses dans l'individualisme contemporain, l'expression seule est un chef-d'œuvre.
Monsieur Zinc, je vous remercie pour votre invitation et je vous remercie pour la confiance que vous me faites. Quand on parle d'humiliation à l'arrière-plan, il y a une certaine conception de la société et de l'être humain qui n'est pas la même sous l'Ancien Régime et dans la démocratie et l'individualisme. L'humiliation menace, met en cause le sujet, l'intégrité du moi. L'humilité et l'humiliation des sociétés d'Ancien Régime font l'objet de rites extrêmement codifiés. L'humiliation contemporaine est beaucoup plus difficilement appréhendable. Elle tient à la précarité, au déclassement, à la dégradation, à la déqualification comme être humain. C'est par l'atteinte à la dignité, par le manque de respect, par l'humiliation, que nous pouvons aborder ces besoins, ces sentiments et ces droits moraux que constituent la dignité, le respect, la considération. Zygmunt Bauman, dans des entretiens récents d'une grande profondeur, a reconnu devoir à l'historien Barrington Moore l'idée, je le cite, que la justice en elle-même n'a pas de signification spécifique, que la justice ne fait sens que comme protestation contre l'injustice. C'est, insiste Bauman, l'injustice qui est spécifique, tangible. On peut, à mon sens, dire la même chose de la dignité, du respect, de l'honneur. C'est en effet le mépris, le déshonneur, l'humiliation qui sont spécifiques, c'est-à-dire, d'une certaine façon, qui provoquent des réactions. L'ensemble de ces questions se repose de façon aiguë dans les formes d'individualisme contemporain. La fluidité des sociétés de marché et de consommation isole, entrave et prévient les liens, les attachements, au moment même où elle incite souvent à des formes de liens empreints d'une violence et d'une radicalité extrême. Les sociologues qui ont fondé la sociologie, proches dans certains de leurs écrits de l'anthropologie, je pense à Durkheim, à Weber, à Simmel, à Mauss, à Halbwachs et à Elias, se sont pour une grande part passionnés pour le Moyen-Âge. l'époque médiévale, y voyant la possibilité d'éclairer, d'élucider des processus qui se déroulent dans la longue durée. Ces processus, en effet, permettent de saisir des continuités, des persistances et certaines des évolutions des sociétés occidentales. C'est en cela que sociologue et anthropologue, monsieur Zinck, sociologue et anthropologue, m'inscrivant dans cette tradition, je me suis à mon tour référé à l'époque médiévale pour entreprendre d'élucider l'évolution de certains des fonctionnements et processus aboutissant aux sociétés contemporaines. Je voudrais tout d'abord expliciter brièvement mon approche. J'aborde la question de l'humiliation à partir de terrains, de documents, de périodes différentes, au travers des rites, de leur rôle décisif, du manque de civilité et de ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup l'incivilité, l'atteinte à la dignité. Mauss a souligné la nature sociale des conduites corporelles. Je le cite, « Ce sont les traditions, nous dit-il, qui permettront de comprendre société par société pourquoi un homme ne fait pas tel geste et fait tel autre. Ce sont en effet les traditions qui imposent ou interdisent un geste. Les mouvements, les gestes, les attitudes, les regards même sont donc pour une part régis par des règles, des principes dont l'origine est sociale. Dans un article tout à fait remarquable, Mauss devait également mettre à jour l'absence de spontanéité dans ce qu'il a appelé l'expression obligatoire des sentiments dans les rituels de deuil. Je vous propose donc de revenir à un ouvrage que vous connaissez probablement, celui qu'Érasme consacre en 1530 à la civilité puérile. Qu'il s'agisse de l'église, de la table, des rencontres ou du jeu, Érasme témoigne d'une même préoccupation. Le recueillement, la dévotion, le respect doivent se lire dans la posture, la contenance, toute l'attitude corporelle, tandis que la moindre gesticulation se voit immédiatement écartée. Manifeste ton recueillement par tout ton maintien, lit-on ainsi dans le texte d'Érasme. Tant qu'on dit la messe, montre ta dévotion par ton attitude. Mets-toi à deux genoux, le haut du corps incliné, par respect. Il ne sied pas à un enfant bien élevé d'agiter, nous dit-il, les bras, de gesticuler des doigts, de branler des pieds, bref, de parler moins avec sa langue qu'avec tout son corps. Dans la tradition des civilités qui se poursuivra en déclinant jusqu'à la Révolution française, il importe d'apprendre à se maîtriser pour respecter les autres dans l'espace social. C'est la finalité des civilités érasmiennes ou chrétiennes. On a ici clairement affaire à l'humilité, mais c'est de l'humilité et de l'humiliation dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Halbwachs s'est attaché à l'étude des formes matérielles des sociétés, à leur inscription dans l'espace. Il observe les manières dans l'espace institutionnel, qu'il s'agisse, on le verra plus loin, de l'espace religieux, parlementaire ou judiciaire. Admettons, dit Halbwachs, que, je le cite, « les institutions soient avant tout des formes stables et stabilisées des modes de vie. Néanmoins, si l'on remonte à l'origine de ces structures, nous trouvons, et ceci me paraît absolument passionnant, des états mentaux, des représentations, des idées, qui, en se stabilisant, se cristallisent en quelque sorte. » Halbwachs est profondément éclairant sur le fonctionnement et l'origine de l'espace institutionnel. Il offre en effet une réflexion sur la coïncidence entre la place dans l'espace concret, matériel, physique, et la place dans l'ordre social et politique, dans l'espace institutionnel. Halbwachs relève que la puissance d'un seigneur repose en particulier sur, je le cite, « sa place dans la hiérarchie, au sommet de laquelle est le roi », c'est-à-dire sur la distance plus ou moins grande qui le sépare de lui. Il relève ainsi l'existence, derrière ces familles, d'une réalité substantielle qui fonde leur situation sociale, qui se traduit entre autres, je le cite à nouveau, par leur proximité des princes et de la cour. Albax souligne l'intérêt d'étudier cette période lointaine du Moyen-Âge qui présente, dit-il, une physionomie singulièrement concrète et particulière, permettant d'entrevoir des éléments essentiels, des éléments communs et permanents. C'est dans ce cadre formel et matériel dans lequel une société se dessine au travers des gestes, au travers des mouvements et des postures indiquant le statut, indiquant une position de supériorité ou d'infériorité dans une société, que l'on comprend bien entendu l'intérêt de retravailler sur ces formes que constitue en particulier le rituel de la vassalité au Moyen-Âge ou encore le déroulement des préséances dans l'espace parlementaire au XVIIe siècle, ainsi que les luttes dont elles font l'objet. L'étiquette se définit comme un mode de répartition des personnes et des corps dans l'espace politique, indiquant à chacun, en fonction des titres, en fonction des conditions, des rangs, des charges, la place qui est la sienne, les gestes qu'il doit accomplir. Elle ordonne que la position soit assise ou debout. Elle précise la hauteur du siège attribué. Elle maîtrise les mouvements ainsi que les déplacements. Elle règle la distance qui éloigne ou au contraire rapproche de l'autorité politique. L'ensemble est fixé par un système détaillé de préséances qui se traduisent essentiellement par le fait de soir et de marcher selon un ordre déterminé qui fondamentalement se ramène à une exigence déférée ou précédée. De nombreux textes, des traités de juristes, Loiseau en particulier, des écrits de théoriciens de la monarchie, des mémoires, fixent au travers de cette attention aux gestes une certaine conception de la monarchie et de l'ordre qu'ils ont contribué à élaborer, à protéger, à défendre, parfois même à remettre en cause. Je n'ai malheureusement pas le temps de les évoquer et en particulier, je n'ai pas le temps d'évoquer le texte de Loiseau qui est absolument admirable. Saint-Simon a longuement rapporté les témoignages des légistes dans les querelles qui, au Parlement, les dressent contre les pairs à propos de l'ordre hiérarchique, de l'étiquette et des préséances. Le mémorialiste permet ainsi de saisir le rôle décisif de la dimension matérielle et également symbolique des préséances. La recherche de l'antériorité, la recherche de la hauteur et de la distance qui sont au cœur des préséances, des luttes qu'elles suscitent. À partir de faits concrets, parfois anecdotiques, mais cependant profondément révélateurs d'aspirations profondes, les mémoires de Saint-Simon illustrent la lutte pour l'obtention de privilèges, la lutte pour l'obtention de prérogatives dont certains corps politiques bénéficient, alors que d'autres, les jalousant, se livrent pour cela à des querelles grotesques et interminables. L'ordre selon lequel on entre ou sort de séance au Parlement, la posture, assise ou debout, traduit le rang, la position, la hauteur, la grandeur, entendue au sens littéral tout autant que symbolique. L'inégalité dans la hauteur est en effet un élément essentiel du pouvoir. Lorsqu'il s'adresse au roi, le Parlement, comme le tiers-État, doit être découvert et à genoux. Ce qui lui était, nous rapporte Saint-Simon, un grand crève-cœur, tandis que les légistes voyaient les pairs opiner assis et couverts. Les multiples conflits de préséance qui opposent les présidents des parlements aux pairs naissent en particulier à propos des sièges, de leur hauteur et de leur répartition dans l'espace. Le récit de l'affaire du bonnet, les entreprises relatives au débourrage des sièges des pairs et au rembourrage de ceux des présidents constituent des exemples célèbres au cours desquels les présidents des parlements veulent égaler les pairs. Les gestes les plus anodins, tels que mettre son bonnet devant quelqu'un, ne sont pas des gestes innocents. Il peut s'agir de signes de pouvoir, d'une marque de supériorité de la part de celui qui se couvre ou plus encore de celui qui demeure couvert. Rappelant ce qu'il faut entendre par pair de France à la cour de Louis XIV dès l'origine de la monarchie, ce qui a été connu, nous dit Saint-Simon, par le nom et titre de pair de France, s'est trouvé assis à côté du trône. Saint-Simon indique de fait un élément essentiel dans l'étiquette parlementaire, la proximité par rapport au roi. Être proche du monarque est donc crucial. Plus encore, toucher le trône du coude est un privilège. La revendication d'égalité en matière de proximité et de hauteur provoque des querelles et des conflits de préséance intenses et répétés qui peuvent trouver à se résoudre par l'instauration, parfois même l'inversion d'inégalité dans la hauteur. Les gestes et les positions dans l'espace et dans la société qui renvoient à la question du statut diffèrent selon les sociétés, les époques et les systèmes politiques. Ils expriment et traduisent pourtant des préoccupations, voire des aspirations continues et fondamentales, telles que le souci de la proximité à l'égard du pouvoir. Bref, l'humilité que l'on perçoit dans la différence se traduit de différentes façons, par des formes ayant une intensité plus ou moins forte, telle une prosternation dans l'espace religieux, une génuflexion devant le Seigneur, le monarque, ou ailleurs, le fait de se découvrir la tête qui apparaît comme un signe de révérence, de loyauté et de respect. Peut-on cependant aller au-delà de ce constat, selon lequel l'humilité exprimée dans la déférence ne serait qu'une dimension constitutive du cérémonial? La déférence serait-elle une disposition fondamentale de la personne, au point que Goffman, un sociologue important, un sociologue américain très inspiré de Simmel, a pu, à la fin des années 50, en faire un attribut fondamental de l'être humain. L'étiquette du cérémonial tendra à s'effacer sans être totalement supprimée, ses fonctions étant progressivement remplacées par des règles politiques et religieuses, insistant davantage sur la conduite exprimant la soumission, l'obéissance au gouvernant. Simultanément, elles vont, avec la promulgation de règles morales, se développer, s'affirmer de plus en plus dans la perspective de contraintes largement intériorisées. Tocqueville retrace ainsi le parcours qui va de l'État social et des institutions politiques au Moyen-Âge aux institutions démocratiques. Ce parcours qui part de la dépendance, de l'allégeance, de la déférence à un homme particulier dans la féodalité, où chacun, dit-il, chacun ne connaissait qu'un certain homme auquel il était obligé d'obéir. C'est par celui-là que, sans le savoir, on tenait à tous les autres. Dans les sociétés féodales, écrit-il encore, tout l'ordre public roulait donc sur le sentiment de fidélité à la personne même du Seigneur. Dans le rituel de la vassalité, dans l'hommage, l'important souligne et commente récemment Le Goff, c'est, dit-il, l'expression de la subordination plus ou moins marquée du vassal par rapport au Seigneur. L'inégalité des conditions et des attitudes, ajoute-t-il, apparaît dans les gestes. Dans le geste du Seigneur, il y a, je cite toujours Le Goff, à travers une promesse de protection, ostentation d'un pouvoir supérieur. À l'inverse, dans le geste du vassal, il y a, sinon humiliation, du moins signe de déférence, d'humilité et d'infériorité. Le Goff relève que dans l'espace symbolique où se déroule l'entrée en vassalité, il y a, je le cite, « déplacement des contractants pour accomplir le rituel vassalique ». Le déplacement reflète la nature du lien entre le seigneur et le vassal. Le vassal, l'inférieur, manifeste sa déférence au seigneur en se rendant auprès de lui. Il remarque encore qu'il faut aussi tenir compte de la place réciproque des contractants au cours de la cérémonie. Le seigneur est-il assis, s'interroge-t-il, sur quel type de siège, est-il dans une posture surélevée, le vassal est-il debout ou à genoux? Venons-en maintenant aux prémices, je suis bien entendu très rapide, de la Révolution. Pour un certain nombre d'historiens, dont Mona Ozouf, le moteur de la Révolution a été la revanche prise sur l'humiliation. La nuit du 4 août devait permettre l'abolition des privilèges, des inégalités et instaurer l'égalité. Or, l'humiliation, de toute évidence, est beaucoup plus générale, beaucoup plus étendue que le privilège. Elle ne s'y limite pas. Beaucoup plus diffuse, intangible, imperceptible, l'humiliation éprouvée par soi, l'humiliation infligée à l'autre, volontairement ou involontairement, est souvent difficile à cerner et plus encore à codifier, à sanctionner, voire à légiférer. Explicite ou insidieuse, l'humiliation peut s'exprimer par des attitudes, des maintiens, des gestes, des paroles, tenir à la personnalité, au caractère, relever enfin d'une atmosphère, d'un climat qu'elle contribue par ailleurs à instaurer, voire à renforcer. Tocqueville évoque 1789, cette époque qui veut fonder des institutions démocratiques, qui veulent, je le cite, non seulement détruire des privilèges, mais reconnaître et consacrer des droits. La déférence a-t-elle une place dans ce projet? Peut-on alors parler de déférence égalitaire? L'attention sous l'Ancien Régime n'était accordée qu'en fonction des rangs, et la plupart, de fait, n'en recevaient aucune. Et il me paraît intéressant d'opposer les attentions à l'attention dont, à propos de laquelle Tocqueville disait que l'inattention est le plus grand vice de la démocratie. Quand l'ordre des déférences était établi sur la naissance, le système de la déférence était précis et manifeste. Chacun connaissait la place qui était la sienne dans l'échelle sociale. Il ne cherchait pas à monter, dit Tocqueville, il ne craignait pas de descendre. Dans les luttes qui, opposant les différentes classes, précèdent l'égalisation des conditions, Tocqueville discerne, je le cite, l'envie, la haine et le mépris du voisin, l'orgueil et la confiance exagérée en soi-même. Supprimés, les privilèges se reconstituent. Les luttes pour l'obtention de la déférence, de la valeur et de l'utilité sociale perdurent sous d'autres formes. Il faut ici se souvenir que les luttes pour la considération ont été au cœur de débats qui ont voulu supprimer les inégalités et les privilèges. Dans la considération, je cite brièvement Seyès, qui, à l'instar de Rousseau, aperçoit encore le besoin de hiérarchie, la volonté de se démarquer, le désir d'être au-dessus, d'avoir une position de prééminence, diffère, dit-il, de la seule demande de respect, d'aspiration morale à être estimé. Seyès reconnaît alors la nécessité de distinguer ce qu'il appelle la supériorité des privilégiés, qu'il qualifie d'absurde et de chimérique, d'une autre forme de supériorité légale, dit-il, celle qui suppose, je le cite, des gouvernants et des gouvernés, celle de l'ordre. Seyès disjoint la question donc de l'ordre nécessaire de celle de l'inégalité. L'une est politique, l'autre est liée à la condition humaine. Elle n'enorgueillit pas les uns, écrit Seyès, elle n'humilie pas les autres. C'est une supériorité de fonction, ce n'est pas une supériorité de personne. Tocqueville entreprend alors de réfléchir à l'éventualité d'une déférence démocratique. Respectant chaque homme en fonction de sa qualité d'être humain, plus guère en fonction d'une condition sociale, d'un rang dans la société. Il pose, je le cite, que le genre humain éprouve des besoins permanents et généraux. La déférence en ferait partie. de ses besoins sont nés des lois morales, à l'inobservation, dit-il, desquelles tous les hommes qui ont naturellement attaché en tout lieu et en tout temps l'idée du blâme et de la honte. Les sociétés démocratiques, où désormais chacun entreprend, écrit Tocqueville, de se suffire, et met sa gloire à se faire sur toute chose des croyances qui lui soient propres, vont-elles alors modifier en profondeur l'idée même de déférence ? C'est précisément sur ce type de question que se penchera à nouveau Shields à la fin des années 60, constatant une atténuation de la déférence explicite dans les sociétés démocratiques contemporaines, Shields s'interrogera sur le fait de savoir si la déférence persiste dans les relations entre égaux. Il souligne que si la minutie du rituel tend à disparaître, la déférence ne cesse pourtant pas d'exister. Elle survit, nous dit-il, sous une forme diffuse, impalpable, qui pénètre les relations de toutes sortes par le ton du propos, le maintien, la préséance. Shields remarque alors qu'il faudrait adopter une autre approche, peu développée jusqu'alors, pour étudier la déférence, l'approche que j'évoquais au début. Une approche qui tiendrait compte de ce que la déférence est étroitement liée, je le cite, à des phénomènes tels que le prestige, l'honneur, le respect, la renommée, la gloire, la dignité. Mais également, à l'inverse, et c'est ce qui me semble très intéressant, l'obscurité, la honte, le déshonneur, l'irrespect, l'infamie, l'ignominie et l'indignité. L'humiliation, et c'est ce qui peut ici nous intéresser tout particulièrement. Reposant récemment les questions sur lesquelles Shields et Goffman s'étaient arrêtés, Robert Post, qui est juriste, rappelle, je le cite, que l'intégrité de la personnalité individuelle dépend en partie de l'observance des règles de civilité et de déférence. Post remarque encore que la violation des règles de civilité traduit un manque de respect de la dignité de la personne. La notion d'honneur sous l'Ancien Régime, intrinsèquement liée aux inégalités, définissait les identités, traçant des limites, des frontières entre chacun, assignant des rangs et des places. Elle tend à se distinguer de la notion de dignité, qui, universaliste et égalitaire, entend reconnaître, je cite, que la dignité inhérente à tout être humain est une identité qui a été affirmée, revendiquée dans les droits reconnus à chaque homme. Michael Walzer, dans les années 90, partant de textes du XVIIIe siècle, nomme les comportements indissociables des valeurs sociales, éthiques et politiques par le biais desquelles les gens sont reconnus. L'honneur, je le cite, le respect, l'estime, le prestige, le statut, la dignité, la réputation, le rang, la distinction, la déférence, la considération, la reconnaissance, la gloire, sont des termes, dit-il, employés à des époques dans des contextes différents. Toutefois, ils ont un élément fondamentalement commun, ils apparaissent chaque fois comme des éléments de valorisation. Mais Walzer relève alors les effets pervers des sociétés démocratiques contemporaines en matière de reconnaissance, qu'il explique ainsi, je le cite, « Puisqu'il n'a pas de rang fixe, puisque personne ne sait où le situer, il doit imposer sa propre valeur et il ne peut le faire qu'en gagnant la reconnaissance de ses pairs. Rien qui semble moins important que les manières, disait Tocqueville. Rien à quoi les hommes semblent pourtant attacher plus de prix. L'estime, l'honneur, tous ces biens insaisissables et cruciaux, précieux et constamment dérobés, ces biens qui sont aux origines ou du moins partie prenante de bouleversements politiques majeurs, de gestes héroïques, de sacrifices, de désespoir, de révolutions sanglantes, de luttes qui s'achèvent dans la mort, les marques, les signes, les manières qui, dans le même temps, peuvent uniformiser et distinguer, reconnaître la qualité ou la valeur, peuvent aussi la léser, la blesser et la meurtrir, l'humilier, provoquant l'amertume, le ressentiment, la haine. Je voudrais maintenant très rapidement évoquer, cela va peut-être vous surprendre, certains passages de Marx, des manuscrits de 44 et du Capital, qui me semblent d'une actualité saisissante pour approfondir la question de l'humiliation dans les sociétés contemporaines, évoquant le mépris, le dénuement, la pauvreté intérieure, la dépossession de soi, la mortification du corps, l'oppression sociale et économique, Marx, en quelques mots, a exprimé l'essentiel des conditions de l'humiliation de l'ouvrier d'usine dans l'Europe capitaliste du XIXe siècle. Les conditions de travail humiliant concernaient l'ouvrier, subordonné à un chef, exploité, instrumentalisé, exclu de la propriété des moyens de production. L'ouvrier n'était toutefois pas isolé. Sous l'impact de la mondialisation, les sociétés contemporaines changent de façon continue. Ce sont des sociétés flexibles, sans frontières extérieures, sans limites intérieures, sans règles et sans lois toujours discernables. Des sociétés fluides, des sociétés liquides, pour reprendre en particulier l'expression de Zygmunt Bauman. Ces conditions ont des conséquences profondes sur les manières de se comporter qu'elles induisent, les types de personnalités qu'elles laissent se développer, voire encouragent, les valeurs et enfin la nature des liens entre individus. Au-delà des conditions du travail, ce sont plus largement les conditions d'existence qui ont changé et tendent à devenir humiliantes pour les individus. L'isolement dans l'individualisme contemporain accroît la précarité, accroît la vulnérabilité économique, sociale, psychique, le sentiment d'impuissance et d'humiliation. La fluidité entraîne des modifications susceptibles de mettre en cause la possibilité même de structuration, voire d'existence du moi. Il est peut-être compréhensible que dans des conditions où les classes ont disparu en tant que telles, où les solidarités se sont considérablement distendues, soient apparues des législations en matière de harcèlement, des législations pour ce que l'on désigne entre autres par violence symbolique, meurtre psychique. Les Américains, que Tocqueville décrivait comme indifférents aux manières, ont pourtant été les premiers à mettre à jour le harcèlement moral au milieu des années 90. Concrètement, dans ce harcèlement, des individus décelant à l'endroit de leur propre personne une hostilité diffuse, une réticence, une réserve, qui se traduisent ici par un geste, là par un regard, là encore par un mot, ont désormais le droit de se plaindre d'une inattention humiliante, d'une indifférence systématique. Ils ont le droit d'exiger l'attention, les égards, le droit de contraindre au respect et à la reconnaissance, exigeant la sanction du mépris et de l'humiliation. Les humiliations pourraient désormais être considérées comme des conséquences de sociétés de marché sans limite, n'étant pas à même de respecter la condition humaine, d'offrir à chacun des conditions de vie décentes, infligeant de fait un déni de reconnaissance, un déni d'existence pour des masses d'individus toujours plus nombreuses et atomisées. Ces formes d'humiliation diffuses, insidieuses et souvent sans auteur repérable sont extraordinairement difficiles à observer, à étudier, à qualifier et invitent à reposer des questions qui sont au fondement des sciences sociales, et j'ajouterai, et pas seulement au fondement des sciences sociales. Ces humiliations sont en effet susceptibles de provoquer, à la différence de l'honneur, à la différence, excusez-moi, de l'offense, du déshonneur, de la honte, de l'infamie, régies par des codes, des rituels sociaux qui gouvernaient les sociétés sous l'Ancien Régime, à la différence également de l'humiliation vécue par le prolétariat au XIXe siècle, les situations et les formes d'humiliation contemporaines entraînent une misère sociale et psychique susceptible d'affecter le moi. Un moi de plus en plus isolé, un moi tout à la fois privé de repères, de contacts, et cependant dépendant et perdu. Un moi impuissant, profondément désorienté, et en cela, dans l'incapacité fréquente, dans l'incapacité psychique de s'associer avec d'autres. Cette humiliation contemporaine se traduit et est due en particulier à un effacement des distances dans les relations, une psychologisation des relations, tant privées que professionnelles, naissant et induisant un rétrécissement de l'espace intérieur en chacun, elle touche au noyau le plus profond de l'individu, au sentiment même d'identité et d'existence, au moi. Confronté, on peut penser que l'humiliation tient au fait que l'individu est insidieusement mis dans une position de dépendance, éprouvant un sentiment d'impuissance, de frustration et d'humiliation intense, confronté à une complexité et une opacité grandissante. Il ne parvient plus à trouver de sens à la société et à sa propre existence, à sa propre activité, bien entendu. La société de consommation tend à dévaloriser les individus, la singularité, la créativité, l'imagination, la personne en chacun. Elle entrave, voire détruit la subjectivité dans la mesure où elle interdit la capacité psychique requérant le temps nécessaire à la réflexion, au rapport à soi, en conséquence, à la conscience de soi. Confrontée en effet à présent à des flux sensoriels et informationnels ininterrompus, les capacités psychiques, la mentalisation seraient diminuées, parfois même détruites. On serait passé d'une certaine forme de pauvreté intérieure, due essentiellement aux conditions de travail humiliantes, qu'observait Marx, à la pauvreté intérieure, née des conditions de travail et plus largement des conditions d'ensemble de la société, liées à la flexibilité et à la fluidité, entraînant une confusion entre intériorité et extériorité, imposant, et j'insiste sur ce point, un rythme, imposant une accélération, une vitesse qui toucherait aux capacités psychiques et affecterait le moi, l'identité, la subjectivité. L'individu dans les sociétés démocratiques contemporaines est isolé dans le travail et en dehors du travail. Et c'est cet isolement qui facilite, voire encourage, le caractère répété et intense, me semble-t-il, de l'humiliation. Il y aurait à présent des formes d'aliénation et d'humiliation diffuses, comme je le disais au début, incernables, indistinctes, illimitées, qui précisément toucheraient, entraîneraient la pauvreté intérieure de chacun, due aux formes contemporaines du travail dans les sociétés non plus de production que de consommation, impliquant la psychologisation des relations professionnelles, l'effacement d'une frontière entre intérieur et extérieur, qui tiendrait en particulier à une réduction de l'espace public à l'espace privé, intime, enfin, au rapport à soi. L'homme n'est plus tant clairement subordonné à un autre, quel que soit cet autre, qu'exclu en tant qu'homme, d'une certaine façon, de la société contemporaine de marché. Les individus seraient maintenant renvoyés, cantonnés à leur soi, un soi privé de support, de soutien, de protection, tant extérieur qu'intérieur. C'est vraiment l'intérêt des travaux d'Elias et d'Anna Arendt que d'avoir dégagé les processus psychologiques et sociaux d'humiliation dans les mécanismes d'exclusion, de stigmatisation et de marginalité, mais je n'ai malheureusement pas le temps de m'y arrêter. On peut comprendre qu'être dans une situation où l'on n'a ni attention, ni considération, ni reconnaissance, ni a fortiori sentiment de valorisation est humiliant. Cela révèle une dévalorisation des individus, un sentiment d'absence de valeur de soi et de l'autre. La privation spécifique de soi, la question du sentiment, plus encore que la conscience de l'humiliation, est au cœur, me semble-t-il, de l'humiliation dans les sociétés de consommation. Observons que ne pas avoir la possibilité de consommer dans une société qui invite de façon continue à la consommation constitue une humiliation décuplée. Bauman, que j'ai cité auparavant, a souligné que nous savons que les humiliations existent en grand nombre, constatant dans le même temps que nous ne faisons rien, car fondamentalement, nous ne savons pas comment faire. Il importe de se demander si nous ne savons pas comment faire, ou encore si, avec la flexibilité, avec les capacités d'adaptation exigées, avec les qualités et les comportements encouragés, valorisés chez les individus, si nous-mêmes, en tant qu'individus, nous ne sommes pas progressivement devenus différents, de quelle façon et jusqu'à quel point. J'ai tellement voulu réduire que j'arrive.
Vous êtes au bout.
J'arrive.
Vous êtes libre comme l'air.
J'arrive à ma conclusion. Je suis pas libre
par
rapport.
D'humilier.
Je ne suis pas libre par rapport à moi-même.
Il n'y a rien d'humiliant à être bref. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire bref. Vous pouvez revenir là. Je sais pas sur.
Je voudrais terminer.
Mais vous faites exactement comme vous voulez. Ça nous laissera du temps pour parler ou pour pas parler. Ou
pour parler, oui. Je vais donc terminer sur un texte de Thomas Mann qui décrit l'atmosphère des années 30, Mario et le magicien. C'est un texte qui parle d'une humiliation tout à fait effrayante. Ensuite, j'évoquerai le préambule de 46, qui a parlé pour la première fois de la dégradation de l'être humain à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, je parlerai du témoignage de Primo Levi. L'appel à résister aux tentatives de dégradation de la personne humaine se fonde sur ces droits inaliénables et sacrés des individus, dont le droit à la dignité fait partie. Il faut alors s'interroger sur la portée de ces droits pour des individus concrets qui, de par leur situation matérielle et sociale, ont perdu toute dignité aux yeux des autres et à leurs propres yeux. La notion de dignité, de droit à la dignité, fondamentale, est pourtant profondément imprécise et parfois ambiguë. Nous évoquons ici des situations, comme je le disais à l'instant, considérées comme attentatoires à la dignité humaine. Tout d'abord, la nouvelle de Thomas Mann, Mario et le magicien, dans laquelle l'écrivain fait le récit d'un type de spectacle fort privé en 1930 en Italie. Il s'agit là de divertissements particulièrement pervers, au cours desquels une personne se voit délibérément humiliée, abaissée, dégradée, avilie par le geste, l'attitude d'un être qui, la privant de toute maîtrise de soi, l'amène à soumettre son corps pour exercer ainsi sur elle une domination absolue. J'ai dit à l'instant que j'évoquerai ensuite le préambule de 46 et que je conclurai enfin par un extrait de Primo Levi. 1930, dans le climat politique auquel le préambule de 46 fait allusion, Thomas Mann séjourne avec sa famille dans l'Italie mussolinienne. L'atmosphère de la petite ville dans laquelle se trouve l'écrivain est lourde, étouffante, inquiétante. Torre va être le théâtre d'un drame qui avait commencé comme un divertissement. Thomas Mann évoque, je le cite, « un état d'âme collectif difficilement saisissable ». On perçoit de la susceptibilité, de l'orgueil. Le public plastronne, je le cite, se prend au sérieux et exhibe, je le cite à nouveau, un amour de l'honneur continuellement en éveil. Y sont constamment évoqués le manque de respect à l'envers de la nation, les atteintes à l'honneur du pays, à la dignité de la patrie, un manquement général à l'honorabilité. Et l'écrivain ajoute, on ne tardait pas à comprendre qu'il s'agissait de politique, que l'idée de la nation, de la grandeur et de la dignité de l'Italie était en jeu. L'imprévu menaçant, inquiétant, va s'incarner dans la personne de Cipolla, un magicien, déférent au premier abord, obséquieux et doucereux. Cet homme va rapidement se montrer arrogant. L'écrivain remarque en outre qu'il y avait, je le cite, quelque chose qui n'était pas normal dans sa conformation. Du personnage émanait non seulement de l'arrogance, de la méchanceté, mais de la cruauté. Sur son avant-bras gauche, suspendu par une lanière de cuir, l'écrivain aperçoit une cravache ornée d'un pommereau d'argent en forme de griffe. Le magicien va constamment s'efforcer de priver de volonté un spectateur choisi par la maîtrise qu'il exerce sur lui. Un jeune homme, qui a une coiffure à la mode depuis le réveil du patriotisme, se sentant provoqué et blessé dans son honneur par Cipolla, apparaît alors. Ayant cru deviner en lui un homme fort, je cite Thomas Mann, « Tu fais ce que tu veux, lui dit Cipolla. Ou bien, t'est-il déjà arrivé de ne pas faire ce que tu voulais ? Ou même de faire ce que tu ne voulais pas ?» Le magicien l'invite alors à tirer la langue, toute la langue, jusqu'à la racine, à cette société choisie et respectable. Devant le refus du jeune homme de se montrer grossier, Cipolla, le magicien, s'efforce de le convaincre en lui disant qu'il ne sera responsable que de l'acte. Puis il déclare alors avec fermeté « Avant que j'aie compté jusqu'à trois, tu vas tirer la langue à la société, une langue si longue que tu n'as jamais su que tu pouvais la tirer si loin. » Thomas Mann ajoute alors « Il tira en effet la langue démesurément, puis reprit sa position antérieure, le visage sans expression. » Un autre jeune homme, qui veut sauver l'honneur du genre humain, se déclare décidé à choisir clairement, selon sa volonté, et à résister consciemment à toute influence de quelque sorte qu'elle fût. Le magicien réplique tout aussitôt « Votre résistance ne changera rien au résultat. La liberté existe, la volonté aussi existe, mais la liberté de volonté n'existe pas. » Cipolla va ensuite rappeler que c'est seulement avec les forces de son âme et de son esprit qu'il maîtrise la vie, ce qui veut toujours dire se maîtriser soi-même. Obséquieux et manipulateur, Cipolla feignait, je cite Thomas Mann, feignait l'admiration pour le génie des personnes qui l'interrogeaient, mais ses compliments avaient quelque chose de dégradant. Ses triomphes, quelque chose de singulièrement déshonorant pour chacun et pour tous. Dans le public, on pouvait percevoir un obscur mélange d'aversion et de fascination. Et j'insiste sur ce point, car c'est quelque chose qui est toujours aussi actuel. Un étrange mélange d'aversion et de fascination. Cipolla accomplissait une volonté commune qui flottait dans l'air sans être exprimée. Je parlais tout à l'heure de climat, d'ambiance, d'atmosphère. Celle-ci accompagnait la faculté, je cite Thomas Mann, la faculté de se dépouiller de soi-même, de devenir instrument, d'obéir dans le sens le plus absolu et le plus parfait du mot. Ceci n'était que l'envers de l'autre pouvoir, la faculté de Cipolla de vouloir et de commander. À Cipolla incombait la tâche, nous dit Thomas Mann, la plus ardue et la plus exténuante, à lui qui menait et organisait tout, qui transformait la volonté en obéissance. Nous sommes bien proches de la servitude volontaire. Le magicien était conduit et porté par la volonté secrète du public. Ça aussi, c'est un point qui me semble extraordinairement important. Interpellant le jeune serveur, Mario, l'écrivain remarque qu'il n'y était pas agréable d'être invité à participer au spectacle. Mais il était, lui dit Cipolla, il était moralement impossible à un simple garçon comme lui de se soustraire à un ordre d'un homme comme Cipolla. « J'observe, lui dit Cipolla, j'observe sur ton visage une marque de réserve, de tristesse. Tu as du chagrin, insiste le magicien. Tu pensais que je ne le verrais pas ?» Mario niait énergiquement de la tête. Évoquant la jeune fille que Mario aime sans espoir, se livrant alors à une description profondément humiliante, faussement admirative, élogieuse, d'une activité par ailleurs servile, le magicien déclare se mettre à la place de Silvestra. « Comment ne pas aimer ? Comment donner mon cœur à un Mario, un chevalier de la serviette ?» Je vous rappelle que Mario est un garçon de café. « Un chevalier de la serviette qui évolue parmi les gens de qualité, qui offre avec adresse des rafraîchissements aux étrangers et qui m'aime d'un sentiment ardent et profond. » Cipolla parle maintenant à la place de la jeune fille, à laquelle il s'est insidieusement substitué. Thomas Mann raconte alors le caractère abominable de la scène. Je le cite, « L'imposteur se faisait gracieux, remuait coquettement ses épaules difformes. » La scène exhibait la prostitution de l'âme la plus intime, l'exposition d'une publique d'une passion désespérée. Subjugué, perdu, le garçon de café Mario soupira le nom de sa bien-aimée. « Donne-moi un baiser, implorait Cipolla. » Mario laissa échapper. « Je t'aime, lui donna un baiser. » Le spectacle était écœurant. Mario se réveille soudainement, se redresse, incrédule, immobile, le regard fixe. Il se frappe plusieurs fois les tempes avec les poings et se sauve pendant que la salle applaudit, que Cipolla rit. Mario se retourne brusquement. Deux détonations sèches claquent à travers les applaudissements et les rires. Cipolla n'est plus qu'un paquet informe. L'homme a été réduit à ce qu'il parvenait à faire des autres, un objet, un pantin, une marionnette, un être vide, privé de toute dignité. Je vous donne maintenant lecture très brièvement du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui déclare avec solennité, je cite, « que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Considérant que nul texte ne saurait égaler en intensité et en prestige celui de la Déclaration des droits par excellence, celle de 1789 à 1791, le préambule en réaffirme la philosophie politique et morale afin de se dresser contre ces régimes qui, je le cite, ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine. Nous sommes en 1946. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les pays ont pris conscience de ce qu'il fallait protéger tout être humain de la dégradation et de l'humiliation. Je voudrais maintenant conclure, non plus par un divertissement, mais par un témoignage, dans celui de Primo Levi. Dans « Si c'est un homme », Primo Levi observe et détaille le rôle du regard dans le déni de la condition humaine. Primo Levi décrit ainsi une scène où l'on est glacé par l'aplomb des SS qui se tiennent les jambes écartées, par l'inexpressivité, l'impavidité du visage, la lenteur et le détachement dans les gestes. Vous avez tout à l'heure évoqué le fait que j'avais écrit une histoire du visage et j'avais été très sensible à ce texte. Il raconte encore l'arrivée d'un SS, la cigarette à la bouche, le geste lent, la manière dont, tandis qu'il scrute les prisonniers de façon méticuleuse, sans la moindre émotion, le maintien et l'inexpressivité physique se substituent à la parole. L'Allemand ne prend pas la peine de parler, ce qui pourrait signifier l'expression d'un respect de l'être humain. Il continue à fumer quand l'interprète lui pose une question. Le traversant, je cite Primo Levi, le traversant du regard, comme s'il était transparent, pire encore, comme si personne n'avait parlé. Rien ne saurait exprimer avec une telle force l'intensité du déni de la personne, de l'autre, face à la nudité des détenus qui, par honte, se couvrent le ventre de leurs bras. L'officier allemand continue, en silence, à se livrer à de banales occupations quotidiennes. Le SS, nous dit Primo Levi, reste là, à regarder d'un air pénétré les contorsions que nous faisons, nous, pour nous protéger du froid les uns derrière les autres. Le regard est au cœur de la condition humaine, impassible, glacial, réifiant, voulant provoquer la peur, la honte et l'humiliation, il cherchera à ne laisser subsister dans la personne que le mécanique. Le déni de regard est alors susceptible de provoquer la perte de l'intériorité et de déposséder la personne de ses attributs les plus fondamentaux. Je vous remercie. Thank you.